Alléluia. Il est bon, frères et sœurs, que nous soyons ici. Il est bon ce matin, Kevin, Anso, que vous soyez ici. Parce que le Seigneur, ce matin, il a un message. Il a un message à vous donner. Et nous allons recevoir selon la disposition de nos cœurs. Alors là, nous allons laisser dehors tout ce qui nous embrouille. Nous allons laisser dehors nos valises, nos poids, nos soucis. Et nous allons là, maintenant, dans la paix du Seigneur, nous mettre à l'écoute de sa parole. Nous allons recevoir. Le Seigneur va nous remplir. Le Seigneur va nous encourager ce matin. Nous avons besoin d'encouragement. Le Seigneur veut et va nous encourager. Et il nous demande aussi de nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin d'encouragement. Amen. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur il y a plusieurs semaines, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je le comprends maintenant. C'est un message d'espoir et c'est un message d'encouragement. Nous voulons croire qu'il y a encore et qu'il y aura toujours dans ce monde quelque chose de bon. Quelque chose de bon, pourquoi ? Parce que nous en faisons partie. Et Dieu est bon. Nous, chrétiens, comme d'autres, tenons à la vie. Mais il y a ceux qui aiment la mort. Combattre la paix n'exige pas seulement que nous restions nous-mêmes, non, mais que nous le soyons davantage, que nous soyons nous-mêmes davantage. Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom sur toutes les situations du monde. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, protège nos cœurs dans ces temps troublés. Seigneur, protège nos cœurs. Maranatha, Maranatha, Seigneur, viens, 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 Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, pose ta paix dans le cœur de chacun de nous ce matin. Dans le cœur de chacun de nous, pose ta paix, pose ta paix. Amen. Comment allez-vous bien? Lors de ma dernière prédication, vous avez entendu que je suis quand même assez pointu sur le vocabulaire, sur les mots. Je vous ai parlé du comment ça va, qu'il y avait plusieurs notions, passablement bien, assez bien, très bien. Comment allez-vous bien ce matin? Moi, je vais bien. Je vais bien parce que je suis devant vous. Et vraiment, j'ai à cœur de vous annoncer ce message. Alléluia. Avons-nous, frères et sœurs, encore la réalité de la substance des mots? Ces mots que nous employons, avons-nous encore la substance, la réalité des mots que nous prononçons? Dans le « ça va », oui. Mais quand nous disons « bonjour », bonjour, c'est devenu banal de dire « bonjour ». Ça va? Bonjour. Comment vas-tu? C'est devenu banal. Quand on dit bonjour, c'est qu'on souhaite le bonjour. On a envie que tu passes une bonne journée. On a envie que tu sois bien dans cette journée. On a envie que tu aies du bonheur. On a envie que tu aies de la joie. Quand on dit le bonsoir, on a envie que tu passes une bonne soirée. On a envie que tu passes une bonne nuit. C'est une bénédiction. C'est quelque chose qu'on apporte à l'autre. C'est de l'amour que l'on a pour les autres. Bonjour, bonsoir. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Anso. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Anso. Bon anniversaire. C'était l'anniversaire de Didier Godin. Il n'est pas là, mais on lui souhaite la meilleure des choses pour sa vie. Il est précieux, notre frère. Il est précieux, Didier. Nous disons aussi bonne année. Bon. C'est le jour des fauchetons, paraît-il, pour certaines personnes. On les voit une fois par an, le reste de l'année, on les voit plus. Bon, chacun fait ce qu'il peut, chacun vit comme il peut. Vous voyez, cette substance est active. Elle possède en elle-même une volonté pour celui qui l'exprime de donner quelque chose de meilleur. C'est une bénédiction qu'on apporte. C'est quelque chose de bien. Avec le temps, les mots se dénaturent. Comment se salue-t-on en Israël ? Shalom. Shalom. Ce mot shalom n'est pas n'importe quel mot. Ce mot, c'est un mot hébraïque qui signifie la paix. Quelles sont les deux coréennes que j'ai raccompagnées en voiture ? Vous êtes là ? Vous vous souvenez ce qu'on a chanté dans la voiture ? Shalom aleichem. Cette paix prend toute autre dimension qu'un simple bonjour. Il s'agit de la paix qui nous vient de Dieu. Et cette paix qui nous vient de Dieu, nous devons la partager avec notre prochain. Qui est notre prochain ? C'est la personne de Dieu qui nous met là, d'une façon proche. Il est là, notre prochain. C'est cette paix, ce shalom de Dieu que nous devons partager. La substance est différente. Nous ne sommes plus dans la banalisation. Le shalom signifie la complétion, c'est-à-dire l'entièreté. Tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est la paix dans notre âme, c'est la paix dans notre corps, c'est la paix dans notre esprit, c'est la paix dans notre cœur. Voilà ce que signifie le shalom. La sérénité d'un individu, son bien-être, la jouissance d'une pleine conscience du présent, du maintenant, jusqu'à l'achèvement, l'aboutissement dans la maturité de l'homme, la maturité que le Seigneur veut pour chacun de ses enfants. L'usage du shalom dans la Torah est bien spécifique. C'est une référence à des conditions liées à la paix, à la sécurité, à la santé et à la prospérité des individus. La formule complète du shalom est shalom aleichem. La paix soit sur vous. La paix de Dieu soit sur vous. Shalom est une langue sémite, au même titre que la langue arabe. Et les Arabes se saluent avec un salam alaikum. Et on retrouve le même radical sémite dans salam shalom. Le nom de Dieu est shalom. Jéhovah shalom. C'est un nom. Shalom qui doit être utilisé, mais pas d'une façon banale. C'est un nom, le shalom, quand on pose un shalom, c'est un mot qui est très important. Shalom aleichem. Le shalom est une bénédiction que nous ne devons pas utiliser à la légère. La paix est un besoin vital. Chacun a besoin de vivre en paix. Mais ce mot est-il aussi dénaturé ? Est-ce que l'homme a dénaturé le mot paix ? Est-ce que l'homme aujourd'hui a dénaturé la paix ? Nous parlons de plus en plus de paix, mais dans la réalité, nous vivons dans un monde tourmenté et qui nous tourmente par sa violence. Et qui nous occasionne le stress, qui nous occasionne des angoisses, qui nous occasionne des insomnies. Nous sommes des consommateurs d'anxiolytiques, etc., etc. Pourtant, chacun recherche l'apaisement. Chacun recherche un équilibre. Chacun recherche le calme. Chacun recherche la sécurité, la tranquillité. Chacun recherche l'union des cœurs. Comme nous ici, nous sommes une église, nous sommes des pierres vivantes. Nous recherchons l'union des cœurs. Amen. Nous recherchons la paix sociale. Nous recherchons d'être en paix avec notre voisin. Oui. Nous cherchons la paix dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, dans notre travail. Nous recherchons aussi d'être en paix avec notre conscience. La paix est un bien-être. Nous voulons tous vivre en paix. Nous voulons tous mourir en paix. Et nous voulons tous reposer en paix. La paix est une activité et non une passivité. Elle est un engagement qui se pratique tous les jours, dans toutes les interactions de notre vie. C'est une volonté que nous devons tous avoir. C'est une combativité positive dans nos relations, en faisant face à nos propres impulsions. Rechercher la paix est une volonté qui démarre par soi. Et c'est une volonté personnelle. Au début du monde, quand Dieu a créé la terre, le ciel, Adam et Ève vivaient en parfaite paix dans un jardin magnifique. Ils étaient en paix. Et puis, Satan est venu. Satan est venu provoquer l'homme. Il est venu tenter l'homme. Il est venu lui voler sa paix. Il a eu un plan diabolique. Il ne voulait plus que l'homme soit en paix. Et en acceptant, la violence est entrée. L'homme a perdu sa paix. Et le mal est entré dans le monde. Nous avons déjà vu qu'Caïn avait tué Abel. Ça a commencé comme ça. Sylviane nous a parfaitement enseigné la semaine dernière. Elle nous a parlé de Noé. Dieu voulait sauver son peuple. L'alliance, vous voyez, cette magnifique arc-en-ciel, l'alliance de paix sur tous les hommes. Oui, elle nous a expliqué ça, Sylviane, c'était magnifique. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, notre Dieu, malgré l'infidélité de l'homme, a toujours renouvelé ses alliances de paix avec sa création. Toujours, toujours, toujours. Mais Satan est très actif dans ce monde encore aujourd'hui. Et il veut à chacun voler notre paix. Aujourd'hui, dans le monde, on tue au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on tue au nom de Dieu. Mais mon frère et ma sœur, si tu n'as pas l'amour, mais tu ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas l'amour de ton cœur, tu n'es pas de Dieu. Les dirigeants des pays sortent Dieu de leur pays, de leur institution. Aujourd'hui, on a sorti Dieu des écoles, des associations. L'homme a sorti Dieu de sa maison, de sa famille, de son travail. Et on dira aujourd'hui, « Ah ben le monde, il va pas bien. Ah ben le monde, il va pas bien. » Allez chercher pourquoi. Je vous laisse la réponse. Je vous laisse la question. Pourquoi le monde ne va pas bien ? Beaucoup d'hommes sont devenus de plus en plus violents. Oui. L'homme est un prédateur pour l'autre, pour son prochain. Il est devenu assoiffé de pouvoir. Il est devenu assoiffé de pouvoir et aussi il est devenu assoiffé de gloire. Le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et au fil du temps, cet homme est devenu de plus en plus cruel. Et il a inventé des machines pour faire de plus en plus mal et pour tuer de plus en plus vite. Nous voyons une escalade de la violence, de la barbarie. Ceux qui ont fouetté Jésus. Vous vous souvenez de ce film, La Passion du Christ ? Moi, ça m'a choqué. J'osais plus regarder. Quand vous voyez cet homme qui s'est acharné sur Christ, et à un certain moment, je pensais que c'était fini, mais non, il s'est retourné pour le fouetter encore sur le devant. Ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, certains hommes, pas tous, sont comme ça dans le monde. Oui, sont comme ça dans le monde. Trop de morts, trop de souffrances, oui. Les guerres. Imaginez les guerres que nous avons vécues dernièrement. En 14-18, il y a eu 18 600 000 morts. En 39-45, il y a eu 50 millions de morts. Entre 50 et 53, la guerre de Corée a fait 1 664 000 morts en Corée. La guerre d'Algérie, c'est 330 000 morts. Je vais arrêter là. Il y a aujourd'hui seulement 11 pays dans le monde qui ne sont pas en guerre. 11 pays, vous vous rendez compte, 11 pays. Notre époque est troublée car la paix dans le monde est bafouée. Après les communistes, après les nazis, aujourd'hui les islamistes et la persécution des chrétiens dans le monde, notamment en Orient aujourd'hui. Et la violence arrive aux quatre coins de nos rues. Elle arrive aux quatre coins de nos rues, à travers ces génocides, ces crimes contre l'humanité. Toutes ces tueries, c'est Satan lui-même qui veut prendre l'autorité sur le monde. Hitler était le diable en personne. Il était le diable en personne. Trop de morts, trop de morts, trop de morts. Et pourtant, les guerres se sont arrêtées parce que des hommes se sont levés. Des hommes se sont levés pour proclamer la paix. Des hommes se sont levés et ont le courage de dire « ça suffit ». Oui ! Alléluia ! On a signé des armistices, on a fait des alliances, on a signé des traités de paix. Mais nous savons qui rallume le feu aux poudres. Nous savons qui détient l'allumette et qui souhaite que la paix ne soit plus dans le monde. Des pays se sont levés. Nous avons créé l'ONU. L'ONU, c'est 193 pays qui se sont rassemblés pour mettre une paix. Une paix dans le monde, c'est une paix diplomatique. Le but, c'est sécuriser les nations. Et chez nous, nous avons pris la Bastille. Et en 1789, qu'avons-nous fait ? Nous avons créé quoi ? La Déclaration des droits de l'homme. Il y a 17 articles. Et le premier article, vous êtes bien assis. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est écrit dans la Constitution. C'est écrit. Tous les hommes, des hommes, se sont levés contre la ségrégation des races. Nous avons vu la création des prix Nobel de paix qui récompensent justement cette dimension de paix, de droit de l'homme. Nous avons des lauréats très 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 connus. Nous avons en 64 Martin Luther King, en 79 Mère Teresa, nous avons en 93 Nelson Mandela. Nelson Mandela qui s'est battu, il a fait 27 ans de prison, cet homme, parce qu'un jour il s'est levé, il s'est dit « ça suffit, ça suffit ». Martin Luther King, « I have a dream ». Il a fait un rêve que tous les hommes vivront en paix. Certains lui ont dit « tu veux continuer à rêver, mais retourne te coucher ». Retourne te coucher parce que ce ne sera jamais possible. Et pourtant, Martin Luther King ne s'est pas endormi. Martin Luther King est allé jusqu'au bout. Allez voir ce film qui s'appelle Selma. Selma, c'est une marche. C'est une marche humaine, c'est un combat pour la paix. Waouh ! Des hommes comme ça, on en veut encore. Et pourquoi on ne serait pas parmi ceux-là ? se lever pour la paix. Ils savaient tous, qui était l'ennemi. Ils savaient déjà depuis longtemps que l'ennemi s'était installé. Ils connaissaient l'occupant. Ils connaissaient celui qui voulait tuer la paix. Dans une réunion, une chrétienne, une amie, nous étions un soir entre amis. Et puis entre deux, enfin c'était plutôt à la fin, nous avons partagé sur l'actualité. Cette sœur nous a confié, j'ai peur du monde, j'ai peur de ce qui se passe, j'ai peur de ce qui arrive. Est-ce que le Seigneur va bientôt revenir? J'ai peur de ces attentats, j'ai peur de ces guerres. Quelle est la signification de ce tsunami? Quelle est la signification de tout ça? Nous sommes vraiment dans des temps et des temps qui sont troublés. Et cette peur est justifiée. Nous pouvons trouver la paix. Mais comment trouver la paix dans ce sommeil, dans notre sommeil, après avoir regardé tout ça à la télévision? Ça nous impacte. Nous sommes des êtres humains. Nous avons réconforté notre sœur. Nous avons prié avec elle. Nous l'avons réconfortée. Nous nous sommes encouragés. Nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous devons résister au mal par la grâce. Parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Amen. C'est bien, je vais boire un coup pour l'ensemble. Pardon? Vas-y, Odette. Tiens, vas-y.
Ça passe. Voilà. Voilà, c'est ce que Martin Luther King disait. Rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche, le moyen d'en sortir, c'est l'amour. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut.
Amen.
Voilà. C'est bien. Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Oh. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Alors, quel regard aujourd'hui nous devons porter sur ce monde? Quel regard devons-nous porter sur ce monde? Comment prendre la juste distance afin que l'extérieur ne vienne pas impacter notre intérieur, c'est-à-dire notre cœur. Malgré certaines réalités, pouvons-nous garder la paix dans nos cœurs? Que ferait Jésus à notre place? Que ferait Jésus à notre place? Nous devons prendre de la hauteur. Alors vous allez me dire, Pascal, quelle hauteur? Mais quelle hauteur? C'est une hauteur spirituelle. Cette hauteur spirituelle, celle de la croix. Nous devons aller à Golgotha. Nous devons aller sur le lieu du crâne. Nous devons monter sur la colline et nous mettre dans la perspective du regard de Jésus. Là, nous aurons la signification spirituelle et la façon dont nous pouvons regarder le monde. Comme lui, il a regardé avec considération du haut de sa croix. Jésus a combattu le visible, mais dans l'invisible. You understand? Est-ce que vous comprenez bien? Qu'est-ce que Jésus portait en lui? Il portait l'invisibilité de la volonté de Dieu. Car la visibilité de la croix été et reste encore une folie aujourd'hui pour l'homme charnel. Il a fallu du temps, même aux apôtres, il a fallu du temps pour réaliser spirituellement le tout accompli à la croix et recevoir l'entièreté de cette paix, de ce shalom en eux. Même les apôtres. Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, même au-delà, en ressuscitant le troisième jour à la croix. C'est ce regard dans l'accomplissement de sa passion qui a permis à Jésus de sauver le monde, de supporter l'insupportable. Jésus, sur la croix, a vaincu l'esprit du monde. Il a vécu la mort. Il a vaincu la malédiction. Il a tout accompli pour nous. Il a vaincu la malédiction et la condamnation. Jésus s'est offert pour que nous ayons la paix, le shalom de Dieu. Et la grâce nous offre la perspective du salut. Il nous est appelé de vivre en paix, à la lumière de cette éternité. Cette éternité, cette paix que beaucoup dans le monde ne connaissent pas. Parmi les 7 paroles de Jésus qu'il a prononcées sur la croix, dans Luc 23, verset 34, la parole dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'homme ne comprenait pas ce que Jésus était venu faire. Et dans la parole, il nous est dit, et ça nous réconforte, dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur vous, sur chacun de nous tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors Seigneur, renouvelle notre regard. Renouvelle notre regard. À Jérusalem, Jérusalem, Yerushalayim, qui veut dire ville de paix. Quel paradoxe. Depuis 70 ans que l'État d'Israël a été créé, regardez les conflits, les guerres dans lesquelles sont les Juifs et Palestiniens. Sans compter tout ce qui s'est passé sur Jérusalem, tout ce qu'elle était envahie, démolie et reconstruite. Tous les ans, c'est Pourim, le grand prêtre entre par le grand rideau, il entre dans le Saint des Saints. Il remet les péchés du peuple d'Israël. Et quand il sort, après avoir dénoué la corde, parce qu'il était attaché à une corde, on ne sait jamais ce qui peut se passer, le peuple est devant lui. Le peuple est sur le parvis du temple. Et le prêtre, le grand prêtre, arrive et proclame « Shalom Alerem ». Shalom, la paix soit sur vous. La paix soit sur vous, peuple de Dieu, peuple d'Israël. Jésus est notre grand prêtre. C'est ce shalom, c'est cette paix profonde que Jésus annonce à ses disciples. C'est dans Jean 20, au chapitre, Jean 20, verset 21. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Shalom alechem. Que la paix soit avec vous. Jean 20, verset 21. Jésus est lui-même le shalom. Parce que Dieu, Jéhovah, est shalom. Et parce que Dieu et son Fils, Dieu et Jésus ne font qu'un. Jésus est le Logos, il est la parole qui s'est fait chair. Il est cette parole de paix que Dieu, notre Père, a envoyée par le monde pour annoncer la paix à sa création. Amen. Jésus est le shalom. Il est ce shalom qui redresse, qui nous redresse. Il est ce shalom bienfaisant qui met de l'huile dans les rouages de nos vies. Jésus nous permet d'être en paix avec Dieu parce qu'il a passé un acte de réconciliation. Jésus annonce la paix parce qu'il est le prince de la paix. La paix est proclamée dès la naissance de Jésus. C'est la bienveillance de Dieu pour les hommes parce que Jésus est le chemin. Parce que Jésus, il est la vie. Parce que Jésus est le chemin, il est la voie de la paix. Que nous devons vivre cette paix, ce shalom de Dieu. Et il a fait ça. Il a ouvert ce chemin de paix dans le tout accompli à la croix. La parole nous dit dans Colossiens 1, verset 20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui, avec lui-même, l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé à la croix. Vous voyez, c'est ce voile qui s'est déchiré. C'est ce voile qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans la paix de notre Père. Amen. La paix est un don de Dieu. Vraiment, frères et sœurs, la paix est un don de Dieu. Et elle nous est donnée par notre Père et par Jésus, mais aussi par le Saint-Esprit. Don de Dieu. Fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie. Galates 5, verset 22. C'est la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que peut couler la paix dans chacun de ses enfants. Amen. Qui nous a promis? Qui nous a promis que la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu serait la vie en rose? Personne. Personne. Est-ce qu'on nous a promis que nous pourrions vivre peut-être dans un cocon? Est-ce qu'on nous a promis de nous faire vivre dans un monde de bisounours? Chez les Coréens, je ne sais pas comment tu vas traduire ça, mais... Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible dans 2 Timothée 3, verset 1? Elle nous dit que, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sauvé, sacré. Sans cœur, sans pitié, ils seront calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, la parole nous dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. La parole nous dit, détourne-toi de ces gens-là. La lettre de Paul à Timothée est aujourd'hui contemporaine. Bien sûr, le monde aujourd'hui n'est pas entièrement comme ça. Il y a encore des choses bien sur terre, mais nous voyons petit à petit que le monde commence à glisser vers cette réalité. Jésus lui-même nous met en garde. Jean 16, verset 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Que vous trouviez la paix en moi, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et il nous appelle à vaincre ce monde. Satan est jugé et condamné, mais il reste toujours actif. Pourquoi? Pour voler notre paix. Et dans la Bible, tout est prévu. Dieu a tout prévu. Dans Éphésiens 6, au verset 12, beaucoup connaissent ce passage biblique. Dieu nous dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous avons aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle. Et nous devons prendre autorité. Paul nous donne la clé afin de combattre le bon combat. Paul nous dit dans le verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous et par sa force toute puissante, recevez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous ne pouvons le connaître et le comprendre que par l'Esprit. Comme tendre le joug, nous pouvons le comprendre que par l'Esprit. Jésus est venu apporter la paix, apporter l'épée. Mais ne nous trompons pas. Il est venu apporter l'épée de l'Esprit. Il est venu nous apporter l'épée de l'Esprit. Au même titre que la ceinture de vérité, au même titre que la cuirasse de la justice, au même titre que les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, qui est ce bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Jésus, Dieu, nous donne des armes spirituelles pour combattre le mal. Jésus, sur la terre, a-t-il combattu la chair et le sang ? Non, il a combattu toutes les ruses et les puissances des ténèbres. Alors je voudrais vous rassurer. Dans Romains 16, verset 20, la parole nous dit « Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » Le Dieu de paix va écraser Satan sous nos pieds. Mais aujourd'hui, nous devons prendre autorité. Et le combat est dans la prière. Et persévérons avec des actions de grâce. Nous devons tous reprendre ce que Satan nous a volé. Nous devons prendre autorité et nous devons prendre, récupérer ce que Satan nous a volé. Il est un voleur. Il veut nous voler notre paix. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Élevons son nom dans toutes les situations difficiles de nos vies. Parce que seul Dieu est capable de changer les situations. Il est capable de changer un désastre en un message. Il est capable de changer une épreuve par un témoignage. Il est capable de changer une difficulté par un triomphe, une malédiction par une bénédiction, une tristesse. Il est capable, le Seigneur, de changer ta tristesse en joie. Il est capable de ça. Il est capable de changer une blessure en guérison. Il est capable de changer une victime en victoire. Il est capable de changer la vie éternelle, la mort éternelle en vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Amen ! Amen ! On est d'accord avec ça ! Soyons patients dans l'affliction. Soyons patients dans l'affliction. Le semeur nous dit aussi que l'épreuve nous trouve plein d'endurance. Paul estime, c'est fort ce que je vais vous dire, c'est fort, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous et pour nous. Waouh ! C'est fort ! Nous savons que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Mais par la foi, nous espérons ce que nous ne voyons pas et nous l'attendons avec persévérance. Mais qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs ? Nous attendons le retour de notre Seigneur. Maranatha, viens Seigneur. Viens, Seigneur, établir ta paix, établir ton shalom sur la terre. Mais présentement, maintenant, dans ce que nous vivons, qui nous séparera de son amour ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera l'angoisse? Est-ce que ce sera la persécution, la faim, la misère, le danger? Mais non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Amen. Rien ne nous séparera. Et ça, nous voulons le proclamer. Proclamer que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, et que en lui est notre paix. Et c'est une paix, c'est un shalom qui dépasse notre intelligence. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et sans Jésus, nous sommes plus que perdants. Je le répète, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Sans Jésus, nous sommes plus que perdants. Nous savons quelle espérance s'attache à son appel. Nous savons l'espérance qui s'attache à notre appel. Quand nous cherchons premièrement son royaume, toutes choses nous sont données en su. Toutes choses nous sont données en su. Entrons dans les promesses de notre Père. La vie éternelle, c'est le cœur de l'Évangile. Personnellement, je sais que nous serons tous accueillis dans le royaume de Dieu, dans un corps glorieux. Dans un corps glorieux, dans un corps saint, où nous n'aurons plus les stigmates de la maladie, où nous n'aurons plus les stigmates des blessures. Personnellement, j'ai perdu mon frère et ma sœur dans de graves maladies. Et le Seigneur m'a mis cette paix dans mon cœur. Il m'a mis cette espérance de les revoir un jour, dans un corps glorieux. Et c'est le Seigneur là qui a mis la paix sur mon cœur. Je vois que l'heure tourne. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Notre Père nous encourage à entrer dans la paix de son Fils. Ne crains pas, crois seulement. La paix dépend de nous, des autres aussi. Mais ne nous décourageons pas. La paix est un processus qui dépend en priorité de la disposition de notre cœur. C'est là, dans notre cœur, que le Seigneur veut mettre sa paix. Il y a une chose qui est impardonnable, c'est de ne pas pardonner. Si nous voulons avoir la paix, nous devons faire en sorte d'être en paix avec tous les hommes, dans la mesure où ça nous appartient. Ne vous vengez point, nous dit la parole. Bien-aimés, nous dit la parole, mais laissez agir la colère du Seigneur. Je vous exhorte, frères et sœurs, de restaurer vos relations dans la mesure où ça vous appartient. Rendez le bien pour le mal. Rendez le bien. Bénissez, ne maudissez pas. Choisissez l'expression vivante de la bonté de Dieu. Soyons des lumières, ce bon parfum qui monte vers lui. Et envers et contre tout, le Seigneur nous donne cette espérance contre toute espérance du monde. Que notre foi soit plus forte, plus grande que notre peur. Refusons tout compromis. Refusons toute allégeance. Ne composons, il ne faut pas composer avec le malin. Il ne faut pas s'accommoder, il ne faut pas accumuler. Nourrissons notre foi et nos doutes vont mourir de faim. Faisons-lui entièrement confiance. Allons chercher la paix en Christ dans la profondeur de notre foi. Il y a un verset qui est extraordinaire, qui m'a touché longtemps. C'est dans Romains 10, tout le monde le connaît. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible, mes frères et sœurs, c'est un parachute. Et si vous voulez que ça fonctionne, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Amen. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, dont dépend notre foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? En Dieu seul, mon âme trouve la paix. Et quand notre vie devient difficile par moments, c'est une occasion de devenir plus fort. Lorsque nous perdons espoir et courage, n'oublions jamais que là-haut dans le ciel, nous avons un Père qui nous regarde. Et son plus grand plaisir, c'est que nous puissions vivre en paix. Nous devons vivre ce que nous croyons. Devenir des hommes et des femmes de paix en résistant dans la fidélité à sa volonté. Réjouissez-vous toujours dans l'espérance que Jésus donne. Allons dans le monde. Levons-nous comme ces hommes, Martin Luther King, Mandela, levons-nous. Prenons la bannière de la paix, P-A-I-X, et soyons des combattants aujourd'hui, là où nous sommes, à notre mesure. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Le verset que je vais vous laisser, pour moi, est très important. C'est Ésaïe 26, au verset 3 à 4. La parole nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, oui, l'Éternel, et le rocher des siècles. Soyez toujours joyeux. Et que la paix, le shalom de Dieu, soit toujours avec vous, par celui qui est le prince de la paix, par Jésus. Jésus nous donne cette paix. Recevons-la, dans l'entièreté de ce que nous sommes. Aujourd'hui, Dieu nous annonce la paix. Eve-nous, shalom halerem. Je vous annonce, moi, maintenant, l'Église vous annonce la paix. La paix en toi, Rémi. La paix en toi, Jean-Luc. La paix en toi, ma sœur. La paix dans ton cœur. La paix dans le cœur de tous ces enfants. Nous allons chanter avec cœur. Eve-nous, shalom halerem. Annonçons la paix. Amen. Merci.